Regardez ça. Et pourquoi donc? Eh bien parce que Hobsbawm, Erik Hobsbawm, était entre autres, c'était pas son activité principale, mais c'était une activité à laquelle il tenait beaucoup, était un critique de jazz. Oui, il a pendant des années et des années écrit des chroniques sur le jazz. Ces textes ont été réunis dans des ouvrages qu'on peut consulter aujourd'hui, qui sont des magnifiques textes d'érudition, d'attention, d'analyse. Ils portent sur la musique des uns et des autres, de Duke Ellington comme de Sidney Bechet, comme sur l'art de Billie Holiday. Non, pas Holiday, ça c'est Johnny, mais Holiday. Son regard, sa façon très étonnante de regarder. Oui, sa façon très étonnante de regarder, une érudition magnifique, mais aussi toujours des angles, des façons de retourner les choses, de nous surprendre par presque des paris qu'il fait, de comparer des choses qui ne nous semblent pas a priori comparables. Je suis tombé sur un texte de lui, par exemple, où il compare en quoi est-ce que l'Europe a transformé les Amériques, mais aussi en quoi les Amériques ont transformé l'Europe. Qui a transformé qui le plus? Et la conclusion d'Hobsbawm, vous vous en doutez, c'est que c'est les Amériques qui nous ont transformé beaucoup plus que nous avons, nous, Européens, du vieux monde, du vieux continent, transformé les Amériques. C'est ce genre de paradoxe qu'il adorait poser avant de développer. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur ce moment de 1999, où effectivement, après que ce livre, L'âge des extrêmes, Histoire du court 20e siècle, ait été traduit dans toutes les langues avec un très très grand succès, et après qu'il y ait cette... on va pas employer les grands mots, censure, mais enfin, en tous les cas, il y avait un rejet, un refus de la part de grands éditeurs comme Gallimard, comme Fayard, de traduire ce livre et l'éditer en France. Eh bien, c'est le jour où le livre sortait dans sa traduction française, à l'initiative des éditions complexes et du monde diplomatique, et où Erik Hobsbawm était reçu à la Sorbonne, notamment par Marc Ferro, son vieil ami Marc Ferro, et vous allez entendre Marc Ferro corrigeant presque, en tous les cas discutant avec Hobsbawm sur certains aspects ou certains manques peut-être de ce livre. Il faut vraiment être Marc Ferro pour voir des manques dans ce livre, tant il est riche, foisonnant, à la fois d'érudition, mais aussi riche de des références permanentes à l'expérience propre d'Hobsbawm, né en 1917 à Alexandrie, ayant vécu en Europe centrale, dans la Mitteleuropa, vivant à Londres, mais ayant beaucoup voyagé, parlant je ne sais combien de langues, et se référant toujours à sa propre vie, ses propres expériences, des choses vues, vécues, parfois simplement entrevues, avec l'idée fixe, c'est que, évidemment, c'est le peuple qui fait l'histoire, même si le peuple est très souvent inhibé, aveuglé par l'histoire, et sans savoir se poser la question de l'utilité de l'histoire. À quoi ça sert, l'histoire? À passer des examens? Mais à part ça, à quoi ça sert, cette histoire? Est-ce que c'est fixe? Est-ce que c'est figé? Est-ce que ça s'arrête dans le marbre, sur les pierres? Et bien sûr que non. Bien sûr que l'interprétation de l'histoire bouge de façon permanente, selon les nécessités du présent. C'est-à-dire qu'on va fouiller dans l'histoire, ce qui va permettre d'étayer le présent, de justifier le présent. Aussi faut-il que le citoyen qui considère ne pas faire partie de l'histoire, qui pense que l'histoire se passe hors de lui, doit évidemment récupérer, s'approprier l'histoire, parce que très souvent, il en est l'acteur et le principal protagoniste. C'est très important, ça. Mais il y a aussi le moment où, à quoi bon rejuger, revenir en arrière, refaire des procès qui n'ont pas été faits. Pourquoi, si nous ne tirons pas de l'histoire.